Je me rappelle.
Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour amis auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie, mais Nathalie Tissier, je vais vous laisser vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Tissier. J'habite à Montvel, j'ai 38 ans, je suis mère d'un petit garçon.
Nathalie, votre vie, c'est un périple.
Tout à fait.
Expliquez-moi.
Je suis, aujourd'hui je suis, si je peux dire, française, mais d'origine nigérienne. Je suis arrivée en France en 2004 pour continuer et suivre mes études.
Vous avez décidé de quitter le Niger, pourquoi vous n'avez pas fait vos études au Niger par exemple ?
Pour faire des études supérieures et puis pour une autre ouverture culturelle, je pense, c'était important pour moi de partir du Niger par rapport aussi au métier, si je peux le dire, de mes parents. Mes parents étaient dans la politique pour préserver, je pense, notre enfance et surtout notre sécurité, parce que bon, c'est un pays quand même qui a connu 5 coups d'État, donc un pays, si on peut dire politiquement, qui était instable. Et quand tu fais de la politique en Afrique, on sait que bon, t'es jamais en sécurité, t'es au pouvoir aujourd'hui, mais demain quand ça change, tu sais pas où tu peux finir. Et pour nous mettre en sécurité, nos parents ont toujours privilégié l'idée de partir étudier à l'étranger et d'avoir cette double culture et cette double nationalité qui était une chance pour moi, puisque ça m'a permis aussi de prendre conscience et de changer et d'arriver à la personne que je suis aujourd'hui.
De prendre conscience, c'est-à-dire quand vous étiez au Niger, vous y étiez qui ?
Alors, quand j'étais au Niger, si je peux le dire, j'étais, si je peux me permettre, j'étais une petite bourgeoise. Une petite bourgeoise qui ne pensait qu'à elle-même, qui était égoïste, qui ne croyait pas à l'humanité.
C'est-à-dire que vous étiez centrée sur vos problématiques personnelles ?
Tout à fait. Je pense que j'étais perchée dans mon petit monde imaginaire, et puis je pense pas beaucoup d'humanité, je pensais qu'à moi-même, et ma réalité à moi, je pense que c'était une réalité qui n'était pas vraiment 100% nigérienne, parce qu'aujourd'hui j'ai pris conscience aussi que mon pays n'est pas ma famille, n'est pas ce que je vivais moi.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce que vous êtes en train de me dire, c'est aussi que votre migration était une migration qui était relativement aisée aussi par rapport à d'autres personnes qui migrent actuellement.
Oui, tout à fait.
Donc, vous arrivez en France et vous avez un choc culturel.
J'arrive en France, j'ai un parcours universitaire, si je peux le dire, excellent.
Vous étiez dans quelle université ?
J'étais à l'université Lyon 2. Université Lumière de Lyon 2. J'ai fait des études de droit, j'ai fait 5 années d'études de droit privé des affaires.
Oui, donc vous étiez dans un cadre d'études et néanmoins, vous avez ressenti donc des choses et que vous ne sentiez pas donc au Niger.
Et le choc culturel, je pense, est arrivé pas dans le cadre de mes études, mais une fois que je suis devenue maman et avant ça, quand je me suis mariée.
Quand vous êtes mariée ?
Tout à fait, oui. Parce que là, je suis sortie de ce cadre, si on peut dire, de quelqu'un de privilégié, puisque j'ai senti ce choc de culture, parce qu'il y a eu un changement déjà. Il y a ce mélange de familles. Il y avait cette mixité à laquelle j'étais pas prête, puisque, bon, j'ai réalisé quelque chose auquel j'étais pas prête. C'est que oui, j'étais noire, ou je suis noire, dans un pays qui était majoritairement blanc. Je pensais pas, en fait, qu'on me voyait comme tous les autres noirs, jusqu'à ce que je me sois mariée et que je me retrouve face à une belle-mère qui ne me jugeait pas pour celle que j'étais, mais pour ma couleur de peau.
Donc, vous êtes trouvée face à une sorte d'adversité que vous ne sentiez pas auparavant et qui vous a rendu solidaire.
Tout à fait.
Des autres populations migrantes, des autres personnes migrantes.
Tout à fait, oui. parce que j'ai commencé déjà à m'isoler, parce que quand on se marie, on se dit, bon, on a une famille, on a envie d'intégrer cette famille, on a envie de les connaître. De par moi, les valeurs que j'ai reçues, la famille, c'est le socle. Donc j'ai voulu intégrer cette famille, j'ai voulu chercher à comprendre et à apprendre à connaître cette belle maman. Mais qu'au final, en fait, tout ce que j'ai reçu, c'était du rejet. Et c'est dans les associations que j'ai retrouvé du réconfort. Hein.
Ah oui, donc ça a été une situation extrêmement difficile que vous avez vécue.
Oui.
Et donc, vous avez senti donc, le fait d'être exclu.
Tout à fait. Ça m'a poussé même à un burn-out. J'étais en plein poste que j'ai abandonné parce que je ne...
C'est quoi le poste ?
J'étais au service juridique de chez Carrefour, dans Lyon 3e. Et en fait, j'ai commencé à avoir une autre image de mes collègues. J'interprétais mal parfois certains dires parce que, bon, en fait, dans ma tête, je me disais, si ma belle-mère me voit comme une noire, ça veut dire que tout le monde me voit comme ça et que je n'ai pas, en fait, d'autres capacités que celle d'être noire. Je côtoyais des gens qui étaient assez ouverts, qui étaient assez tolérants, qui ne m'ont jamais fait ressentir que j'étais différente d'eux.
Au travail ?
Au travail et même dans la vie courante. Ceux que je côtoyais, je me disais qu'ils étaient assez ouverts. Pour moi, oui, ils l'étaient. Mais ce choc culturel, quand j'ai rencontré cette belle-mère, ça m'a permis quand même de prendre conscience que non, en fait, les gens ne me voyaient pas comme moi je me vois. Et que j'ai compris qu'il y a des gens qui peuvent être injustes. L'injustice, c'est quelque chose que je ne savais pas qu'on pouvait être injuste envers quelqu'un sans le connaître. Pour moi, il faut apprendre à connaître une personne avant de la juger. Mais ces préjugés, en fait, j'ai compris que non, en fait, quand t'es noir, on n'a pas envie de te connaître. Quand j'étais en Afrique, je ne me voyais pas différente. Je me voyais pour une privilégiée. Je me disais que, par exemple, que voilà, il suffit juste de bien se comporter, parce que c'est ce qu'on m'a toujours appris. Il faut bien se comporter, il faut être poli. J'ai mes valeurs et j'avais mes valeurs à moi aussi, éducatives, qui étaient du respect, le respect, le respect. Et puis, le fait de grandir, je pense, dans un milieu privilégié, on a tendance à mépriser l'autre parce qu'il n'en a pas, qu'on pense qu'il ne peut pas avoir les mêmes valeurs que nous. Et en France, ça m'a permis quand même ce choc culturel de réaliser que non, en fait, c'est pas ça.
Donc on peut dire que, est-ce que ça vous a en même temps, donc face à cette difficulté, ça vous a mis en humanité ?
Tout à fait, oui. Le fait de, aujourd'hui, de me dire que, bon, je suis pas la seule déjà. Et que l'humain ne doit pas être catalogué. On doit tous apprendre à connaître une personne avant de lui porter un jugement.
Et est-ce que ça vous a amené à aider ?
Tout à fait. C'est ce qui m'a amené à faire de l'humanitaire.
Dans quel cadre ?
Dans le cadre du social. Aujourd'hui, je fais beaucoup de social. Je cherche à aider, pas que mes semblables, mais toutes les personnes qui peuvent sentir de l'injustice. Parce que c'est ce que je combats aujourd'hui, c'est l'injustice. De dire que, bon, on est tous comme on est, on a tous nos valeurs à nous, mais avant tout, on est humain. Et l'importance, en fait, c'est d'apprendre à connaître les gens. Ne pas se mettre à leur place, mais les écouter.
Et alors, quand vous entendez, par exemple, des propos qui sont dans une sorte de banalité, tenus pour racistes, comment vous faites ?
Il faut toujours garder son calme. Ouf, j'ai un exemple tout récent. C'est celui de la dame qui me demande pourquoi comment se fait-il que j'ai une voiture ? Est-ce que je touche des aides ? Parce que pour elle, une personne de couleur comme moi n'est pas censée avoir une voiture, n'est pas censée avoir une vie normale. Parce que bon, pour moi, il n'y a rien de transcendant. C'est juste une vie normale comme n'importe quel être humain qui travaille, qui se bat, qui se cherche. Mais c'est pas poser la question. Pour elle, je suis noire, je ne peux que toucher des aides.
Est-ce que vous aviez une idée de la France en venant en France ?
La France, je l'ai choisie, comme je dis, parce que, bon, culturellement, j'apprécie beaucoup la culture française. Et puis, humainement, j'aime bien ce mode de vie français, parce que je trouve que ça me correspond. Ça correspond aussi aux valeurs qu'on m'a transmises. Mais c'est vrai que les choses commencent à changer. Après, on ne va pas faire une généralité. La France reste et continuera à être quand même la terre d'asile, un pays de droits de l'homme. On ne peut pas empêcher aujourd'hui à certaines personnes de penser ou de croire ce qu'ils veulent. Si je continue aujourd'hui à croire à l'humanité, c'est quelque part parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français aussi qui sont comme moi et qui combattent la même chose. Mais culturellement, je ne peux pas aujourd'hui dire que le peuple français est raciste. Non.
Ouais.
Le vrai français de souche qui connaît son histoire n'est pas raciste. Il peut être ignorant, mais il n'est pas raciste.
Alors, donc, vous plaidez pour une meilleure connaissance. Est-ce que c'est une lutte quotidienne pour vous de faire mieux connaître ?
Tout à fait, oui. Parce que je pense que c'est pour ça que quand quelqu'un me tient des propos racistes, en fait, je ne me braque pas. Je ne m'énerve pas. Parce que je me dis, je suis face à un ignorant, c'est à moi de lui expliquer. Que tout humain, si on lui donne les moyens, il peut changer. Et il a des capacités.
Vous avez un enfant qui évolue en France. Et comment ça se passe au niveau de l'éducation ?
Oh, super bien. Je pense aussi qu'il est issu de l'immigration, mais il se sent plus français que les autres. Ceux qui ont eu à le rencontrer le voient bien. Il a énormément de sourire en lui. La France est sa patrie. Il a envie et il ne rêve que de représenter ce drapeau français. Après, oui, je pense aussi qu'il sert d'éponge. Il absorbe tout ce qu'il entend autour de lui. Parce qu'à son jeune âge, déjà, il est confronté à du racisme. Des propos que je ne peux pas qualifier de racistes, c'est vrai, ça reste des gamins. Je pense que c'est... Voilà. Est-ce des valeurs des parents ignorants ? Je ne sais pas.
Donc, il faut lutter pour de belles valeurs ?
Tout à fait.
Est-ce que dans cette situation, vous conservez de l'espoir ?
Oui, oui. Parce que je pense que... On va... Là, oui, à cause des élections, on voit bien que bon, y a une montée d'extrémisme des deux côtés. Mais ça va se calmer. La France reste, et j'en suis persuadée, elle restera une terre d'asile et un pays de droit de l'homme. Faut pas... Il faut juste sensibiliser les gens.
Ouais. Pensez que l'actualité de l'instant n'est pas celle du temps plus long ?
Non, ça va changer. Ça va changer. J'en suis persuadée. Là, il y a les élections, on nous fait monter la tête les uns contre les autres. Mais les gens vont retrouver, à la base, le français, il est très humain. L'humanité, je pense, elle a commencé en France.
Vous le pensez ?
Oui, oui.
Bien, c'est sur ce propos optimiste que nous nous quittons. Je vous remercie beaucoup, Nathalie, pour ce propos.
Merci à vous.
Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.